8h57, ce matin dans la presse, on publie des chiffres de Statistique Canada concernant l'accès au marché du travail par les immigrants. Et on peut penser aux immigrants de première génération, donc des gens qui arrivent, à leurs enfants, la deuxième, puis parfois leurs petits-enfants, la troisième génération. Le premier constat qu'on fait très souvent, c'est de voir la première vague se tourner vers des emplois qui sont peu payants. Leurs compétences sont difficilement reconnues, on l'a vu dans le passé. Ce qui fait que vous avez des gens qui ont un diplôme universitaire puis qui se retrouvent à faire du taxi ou qui sont livreurs. Dans le cas des enfants qui sont donc nés au Québec, la deuxième génération qui a suivi, tu dis, bien, ils ont été à l'école, ils ont des compétences. L'étude tend à démontrer qu'ils sont même mieux instruits, ont de meilleurs résultats. Et pourtant, ils ont de la difficulté à se trouver un emploi. Les conclusions ou les chiffres, si vous voulez, que l'on donne ce matin, c'est un taux d'emploi donc plus faible, particulièrement, semble-t-il, marqué chez les Arabes et les Coréens de deuxième génération, et que si vous avez un prénom à consonance étrangère, vous allez avoir plus de difficultés à vous trouver un emploi. Ça s'appelle de la discrimination. Je veux dire, si t'es pas capable de te trouver un emploi, on n'est plus dans les compétences, on est carrément dans un cas, en tout cas à première vue, de discrimination. J'en parle avec Maître Marianne Plamondon, qui est une avocate spécialisée en droit du travail. Maître Plamondon, bonjour.
Bonjour.
D'abord, c'est quoi la discrimination? Comment, sur le plan légal, on définit ça?
Ben en fait, c'est en fait une distinction, une préférence qui est fondée sur un des motifs qui est prohibé en vertu de la charte. Il y a différents motifs prohibés, mais ça inclut notamment la race, la couleur, le sexe, l'origine ethnique ou nationale. Donc, évidemment, une personne ne peut pas être exclue ou ne pas être préférée parce qu'elle a un nom étranger à cause de son origine ethnique.
OK, mais ça, là, il n'y a pas un employeur qui dit à quelqu'un « Je ne vous prends pas parce que vous êtes arabe, je ne vous prends pas parce que vous êtes asiatique ou chinois », mais comment on fait pour déterminer ça?
Ben, faut préciser d'abord que ça s'applique également dans le cadre de l'embauche et que aussi la charte protège le fait que l'employeur n'a pas le droit de requérir dans un formulaire de demande d'emploi ou en entrevue des renseignements qui portent sur la race, la couleur, le sexe et l'origine ethnique. Le problème, c'est que le nom en tant que tel parfois parle par lui-même et c'est là que ça devient problématique. Mais au fond, l'employeur doit, en fait, à partir du moment que l'employé décide de porter plainte à la Commission des droits de la jeunesse et de la personne et de la jeunesse, l'employeur doit démontrer que la candidature n'a pas été retenue ou a été rejetée pour une cause autre qui n'a rien à voir avec la discrimination en toute objectivité. Donc, c'est un fardeau qui revient, qui se renverse à ce moment-là sur les épaules de l'employeur du pourquoi la personne a été rejetée. Et donc, l'employeur va devoir démontrer que les autres candidatures, celui qui a choisi avait une meilleure expérience, avait des qualités, davantage les qualités qui étaient requises par le poste, d'où l'importance pour les employeurs de bien documenter le processus d'embauche.
Est-ce que, à votre connaissance, il y a eu des jugements qui ont été rendus suite à des cas comme ça, donc des gens qui ont porté plainte contre des employeurs potentiels pour discrimination au moment de l'embauche?
Oui, il y en a eu très certainement, il y en a eu plusieurs. Évidemment, comme je dis, c'est quand même, tout est une question de contexte. Si l'employeur avait une bonne raison de ne pas prendre l'employé parce qu'il n'avait pas les compétences ou l'expérience requises, à ce moment-là, l'employeur a une certaine facilité à démontrer pourquoi il a rejeté la candidature. Mais à partir du moment que la seule explication, l'explication est boiteuse et pas bien fondée, ben l'employeur peut voir sa responsabilité engagée.
OK, parce que ça, c'est le premier aspect. Au moment de l'embauche, moi, il y a des gens qui me parlent aussi au moment où il y a des postes qui sont affichés. Mettons, ils sont déjà là, ils sont déjà embauchés, mais il y a des promotions possibles, des postes de responsabilité. Et quelqu'un m'écrit, par exemple, qu'il y a eu un affichage de poste, je parle pas d'une entreprise syndiquée, mais qu'à chaque fois, sa candidature est rejetée. On lui dit qu'il n'y a pas le profil recherché, mais il lui a l'impression que c'est basé sur une forme de discrimination. Comment on fait encore là pour documenter son dossier?
Ben, à partir de ce moment-là, l'employé devrait porter plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse s'il a des bonnes raisons de croire que c'est à cause de son origine qu'il a été exclu. Et à ce moment-là, il va y avoir une enquête sommaire qui va être faite par la Commission pour évaluer s'il y a des bases, des assises à un tel recours. Et si oui, l'employé va bénéficier d'un avocat de la Commission des normes, de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui va le représenter et qui va pouvoir obtenir par mode d'engagement les preuves du pourquoi la personne a été exclue dans le processus.
Et la conclusion de ça, est-ce que ça veut dire que la personne peut, au-delà, mettons qu'il y a une décision favorable, j'ai pas eu l'emploi parce que je suis victime de discrimination, j'ai quoi, une compensation financière? Est-ce que ça oblige l'employeur à le prendre? C'est quoi les conséquences?
Ben, à partir de ce moment-là, souvent, il y a des dommages qui vont être octroyés, des dommages moraux, dommages exemplaires, dommages punitifs pour l'employeur qui a fait de la discrimination. Et l'employé, évidemment, reçoit cette somme d'argent-là. Là, c'est sûr qu'on n'est pas aux États-Unis, les montants sont pas astronomiques, mais quand même, il peut y avoir des montants qui soient versés, étant donné le non-respect de la Charte des droits et libertés de la personne.
Merci, Maître Plamondon.
Merci.
Au revoir. Bonne journée. Maître Marianne Plamondon, qui est avocate spécialisée en droit du travail, mais je comprends, là, vous m'avez pas mal écrit là-dessus ce matin. Je sais que c'est pas simple. Il y a quelqu'un qui m'écrivait en disant que on peut pas vérifier, on peut pas valider, mais j'ai des diplômes universitaires. Sa conjointe a une formation très élevée. Encore là, universitaire, puis ils sont pas capables de se trouver d'autres emplois que, par exemple, livreur ou encore réceptionniste. Ils comprennent pas pourquoi. Puis aussi, on est dans une période où supposément qu'on cherche la main-d'œuvre. On n'arrête pas de nous parler d'arrimage entre le marché du travail et l'immigration. Mais c'est clair qu'il y a des types de discrimination. Je vous donne souvent l'exemple qu'on a eu il y a quelques années. C'est un auditeur musulman. Donc, quand il faisait sa demande avec son nom réel, il n'y avait jamais de suite. Puis dès qu'il changeait le nom, puis qu'il y avait un nom québécois de souche francophone, canadien-français, ça passait plus facilement. C'est pas à la base de la discrimination. C'est quoi d'abord? Mais j'avoue que c'est complexe. J'avoue que c'est dur à prouver. J'avoue que aussi, si vous êtes déjà à l'emploi, il y en a qui vont le faire. Puis plusieurs me parlent de cas de gens qui ont des diplômes, en fait des postes, même s'ils ont une compétence limitée en disant « c'est pas grave, on va vous former ». Mais il faut... Je pense que si on veut être honnête ce matin, force est de reconnaître que ça existe encore, malheureusement. 9h05.